moi j'ai pas envie de danser sur de la musique classique, j'ai envie qu'on fasse de la musique qui nous ressemble, et en plus ça serait pertinent de se servir de ça pour montrer la créativité de nos quartiers et de la culture urbaine en général, qui évolue sans cesse. En fait, il y a constamment des nouveaux styles musicaux, donc je lui ai dit, viens, on fait un truc vraiment d'aujourd'hui. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il ferait Bach si c'était un mec de la Castellane en 2023, si c'était un mec qui faisait des instrus pour des rappeurs, tu vois, quelle musique il me ferait? Je lui ai dit, va sur de la drill, s'il te plaît, moi j'aime trop la drill.
Qui êtes-vous au juste? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon.
Relaxé.
On aimerait tellement ça relaxer.
Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
Bonjour, ici Stéphanie Gaulin, réalisatrice et animatrice du podcast Les Impostures, un projet né à Montréal en 2021. Vous écoutez le dernier épisode de la troisième saison réalisée à Marseille. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, le projet des Impostures est un projet féministe qui cherche à politiser le rapport à la parole. Le concept est de donner la parole et l'espace à des artistes pour raconter l'ensemble du travail créatif derrière une œuvre, tous médiums confondus. Aujourd'hui, je suis dans les studios de Radio Galère avec la danseuse et chorégraphe Marina Gomez. Bonjour Marina.
Bonjour.
Tu es franco-portugaise, tu es née à Rodez, dans le sud-ouest de la France. Tu as fait tes premiers pas dans la culture hip-hop dans le quartier du Mirail à Toulouse, que ce soit à travers le rap, le graffiti, la danse. Avec le crew Guilty, tu as dansé dans des spectacles en France et à l'international. Tu détiens une formation en danse classique et contemporaine au Conservatoire de Toulouse, ainsi qu'un diplôme d'études chorégraphiques. Tu as travaillé comme interprète pour différentes compagnies, en 2012 pour la compagnie Masala de Fouad Boussouf, dans laquelle tu développes tes talents de pédagogue et de chorégraphe auprès des projets jeunes danseurs. En 2017, tu chorégraphies Hip Baroque Choc avec des lycéens et musiciens du concert de la Loge de Paris. En 2018, tu commences à développer tes propres projets, tu fondes ta compagnie, Ilel, et cette même année, tu pars en Colombie donner une masterclass, un voyage qui marque le début de plusieurs projets entre la France et la Colombie, notamment la création de la pièce Nido, le Nid, et des ateliers auprès des jeunes de Medellín avec l'association Agro Artes, dont le travail vise à construire une alternative au narcotrafic. En 2021, de retour en France, avec ta compagnie, tu mets en place des stages, des ateliers de danse à Marseille et à Paris, et tu crées la pièce Asmanti, Midi-Minuit. Dernièrement, tu as signé les chorégraphies de la web-série Terrain Sensible, qui prend place dans les quartiers nord de Marseille. En parallèle à ta pratique en danse, tu détiens un master de recherche en psychologie clinique et tu as travaillé dans un service de protection de l'enfance. En juin dernier, dans le cadre du Festival de Marseille, tu as présenté ton plus récent projet, Bac Nord, sortez les guitares, qui regroupe des danseurs de ta compagnie et des danseurs amateurs issus des quartiers populaires. On va parler de cette pièce en profondeur, mais avant toute chose, toi qui as grandi à Rodez, vécu à Toulouse, à Paris, en Colombie, puis t'as officiellement emménagé ici en 2019, si je me trompe.
C'est ça.
J'ai bien fait mes recherches. Quelle est ta relation avec Marseille? Qu'est-ce que tu trouves dans cette ville?
Alors, moi, Marseille, ça a toujours été une maison, en fait. Toutes les villes là que tu viens de citer, pendant tout ce temps, j'ai toujours eu un lien avec Marseille. J'avais de la famille, j'ai eu mes plus proches amis qui étaient ici. Donc c'est toujours un endroit avec lequel j'ai fait des allers-retours, où j'avais envie de vivre depuis longtemps, mais les opportunités, le travail, les études, la famille, tout ça a fait que ça a mis du temps. Mais le moment où je suis partie vivre en Colombie, il y a eu un temps où j'hésitais entre rester vivre en Colombie ou revenir en France, et quand la décision a été prise de revenir en France, c'était clairement Marseille ou rien. Il y a une phrase de je sais plus quel auteur là qui dit Marseille appartient à qui vient du large, et moi je me sens comme ça ici. En fait, moi je me sens en tant qu'enfant d'immigré aussi. Tu vois, tu disais que je suis franco-portugaise, mon père est portugais, ma mère est d'origine espagnole. J'ai grandi dans un quartier avec des gens de tous les origines. J'ai beaucoup voyagé, ce qui fait que moi je me sens pas forcément appartenir à un endroit en termes de frontières. Par contre, je me sens appartenir à Marseille, justement, parce que Marseille, c'est la maison de qui décide que c'est sa maison, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est une ville-monde,
ouais,
qui accueille les gens, qui fait sentir chez soi rapidement.
C'est ça.
Puis en tant que danseuse, chorégraphe, est-ce que c'était facile de monter tes projets ici? Tu disais que pour le boulot avant, c'était plus ailleurs que tu allais travailler, mais comment Marseille s'est devenu aussi un endroit pour créer ta compagnie?
En fait, ça a été à la fois facile et difficile, dans le sens où à Marseille, il y a peut-être moins d'opportunités qu'à Paris, par exemple, pour les danseurs. En tant que danseur, c'est sûrement plus difficile à Marseille. Par contre, en tant que chorégraphe, il y avait un espace qui existait, où en fait, il y a assez peu de compagnies hip-hop. C'est pas le cas de la danse contemporaine, je pense, mais en tout cas, en hip-hop, il y avait un espace qui était libre en termes de création et de hip-hop et une envie. Je suis arrivée aussi au moment où la mairie a changé de bord politiquement. Une envie de la ville aussi de soutenir les cultures plus urbaines et populaires, de développer l'inclusivité et tout. Ce qui fait que les portes étaient peut-être moins fermées qu'ailleurs au moment où j'ai monté Hillel, quoi. Et oui, j'ai senti que ben, quand je venais me présenter mes projets, ça n'a pas été évident. Hein. Il a fallu défoncer quelques portes, mais en tout cas, il y avait un intérêt et une envie des gens d'ici, du milieu culturel, du milieu politique, et après encore plus du milieu, enfin des vrais gens, quoi, mm-hmm. qui se passent des choses au niveau de la danse en hip-hop.
Pour mettre un peu en contexte, il y avait un changement de mairie. C'était quoi?
Il y a longtemps eu une mairie de droite et. Comment je le dirais, un despot, monsieur qui s'appelle Monsieur Godin, et qui a, comment dire, alors après c'est sûrement pas le seul responsable, mais en tout cas en termes de dance hip-hop à Marseille, il y a eu un train de retard au niveau de l'institutionnalisation, du soutien, etc. Il y a des danseurs hip-hop à Marseille depuis longtemps, des très bons danseurs hip-hop, il y a des événements underground, il y a une culture qui est vivante et tout, mais par contre au niveau du soutien, et des opportunités qui ont été offertes à cette culture, elles ont été complètement fermées. Pour moi, on a perdu une génération, certainement aussi en termes de danseurs et tout, parce que contrairement à plein d'endroits en France où il y avait des cours de danse hip-hop partout, enfin en tout cas chaque quartier normalement a sa maison pour tous, sa MJC, il y a un cours de hip-hop à Marseille, il y avait peu ça, pas de financement pour ça, pas d'envie pour que ça se passe. Donc les gens qui ont persisté dans cette culture, ils l'ont fait vraiment de manière autonome et indépendante et avec rien du tout. Alors que, ben voilà, au moment où il y a eu un changement de mairie, il y a eu une envie, en tout cas, de soutenir ce mouvement. Encore une fois, hein, ça n'a pas été évident, mais les portes n'étaient pas fermées, closes à la culture populaire et puis à tout ce qui vient des quartiers, etc. Là où avant, ça n'avait pas d'importance, j'ai l'impression.
T'as défoncé la porte, on espère ouais. qu'elle reste ouverte longtemps, puis que le chemin va se faire.
C'est encore dur. C'est encore ouais. dur, parce que il se passe des choses, mais alors le côté financier, etc., c'est encore pas évident. Il faut de la patience et beaucoup d'endurance. Parfois, j'en manque un peu, puis d'autres fois, ça va.
Bon, on va revenir sur ce parcours de travail pour cette pièce-là. Mais avant, on va l'écouter ton premier choix ouais. de chanson pour la carte blanche musicale que je donne aux artistes. Est-ce que tu peux nous présenter la première chanson?
Ouais, donc c'est... Lis ou Lit, ici on dit avec l'accent marseillais, on dit c'est Lit. Donc Lot of Love, c'est une chanson que j'aime bien parce que déjà en termes instrumental et tout, c'est un univers qui me parle dans le sens où, en fait moi je suis très attachée à la culture hip-hop, mais j'aime beaucoup son évolution actuelle, là où beaucoup dans la danse parfois sont attachés à ce qui se faisait plus avant, les rythmes, les boom-bap, etc. Moi j'aime bien la trap, j'aime bien la drill, j'aime bien le hip-hop un peu expérimental. Et en fait, lui, ouais, j'aime trop ce qu'il fait. Et puis le titre, c'est aussi un peu un clin d'œil parce que il y a beaucoup de violence là à Marseille, dans nos quartiers, et puis en France plus globalement aussi. On est dans une période architendue en termes de violence policière, en termes de révolte des banlieues, etc. Et il y a une journaliste qui s'appelle Nasrin Slaoui. Qui a écrit un petit truc que j'ai bien aimé, enfin, qui a résonné, où elle disait en fait, derrière la révolte, c'est toujours de l'amour. Et cette phrase, elle me parle grave, c'est où moi, là, tout ce que je fais, moi et plein d'autres, toute l'énergie qu'on met, toute la bagarre qu'on met, là, à essayer de faire les choses et à faire changer les choses, c'est beaucoup d'amour pour les nôtres. Donc voilà, ce titre-là, j'aime bien.
I don't know, I gotta lose it just to find it right there. But the money and the cars, what it gave me worth. Oh no. And I got a lot of love for the niggas I need. I don't know, I gotta lose it just to find it right there. But the money and the cars, what it gave me worth. Oh no. Turn me, no. All of me. I'm way too young, I didn't know that. I'm sorry that I didn't give it all, baby. Y'all couldn't shake out what I wanted. I'm ready now, yeah. Lot of love for the niggas I need. And I know I gotta lose it just to find it right there. But the money and the cars would've gave me worth. And I got a lot of love for the niggas I ain't there. And I know I gotta lose it just to find it right there. But the money and the cars would've gave me worth. And
dans la prochaine heure, on va parler de la création de Bac Nord, Sortez les guitares, une pièce produite par ta compagnie, Hillel, que tu as chorégraphiée et dans laquelle aussi tu danses, auprès d'une vingtaine de jeunes danseurs qui sont professionnels et amateurs. Le projet rejoint ce qui guide ton travail créatif, soit de mettre en lumière les récits de celles et ceux qui sont invisibilisés, marginalisés par l'État et les grands médias. J'ai eu la chance d'assister à la première représentation au Théâtre de la Sucrière, c'était le 18 juin, dans le cadre de la 28e édition du Festival de Marseille, qui présentait pendant 3 semaines dans la ville des spectacles de danse, de théâtre, des expos, des concerts, des projections, bref. Et c'était un double programme. Avant Bac Nord, il y avait aussi une représentation de la pièce Asmanti, Midi Minuit. Et dans le spectacle, les chorégraphies sont vraiment imbriquées l'une dans l'autre. Ça prend place dans le même environnement, celui du quotidien des quartiers nord. Les jeunes, tu sais, s'assoient sur les chaises et la pièce commence et on reste dans cet espace-là. Alors, je me demandais, est-ce que Bac Nord, c'est un peu la suite logique de la première création avec Asmanti?
C'est clairement la suite parce qu'en fait, c'est une trilogie. Il y a Asmanti Midi Minuit, Bac Nord Sortez les guitares et La Cuenta Medellín Marseille qui sera le 3e épisode que je glisserai sûrement entre les deux si on a l'occasion de jouer les trois ensemble. Je crois que moi, j'aime bien les formats courts en création. D'ailleurs, j'aime bien les séries, tu vois. Moi, j'aime bien pas m'ennuyer, j'aime bien quand ça monte en termes d'énergie et tout. Donc j'avais envie d'être sur des formats courts et en même temps j'avais pas tout dit avec Asmanti Midi Minuit et donc je me suis dit let's go, on fait une trilogie et c'est clairement la suite, c'est pas forcément dans un sens narratif et en même temps oui on peut l'imaginer parce que la fin d'Asmanti, il y a quelque chose qui, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, moi je veux bien que chacun imagine ce qu'il veut. Et Bac Nord, ouais, c'est le lendemain, c'est le jour d'après.
Parce que Asmanti, ça s'appelle aussi Midi Minuit parce que ça se passe pendant 12 heures. Et là, on fait le tour de l'horloge, puis on voit vraiment le quotidien des jeunes.
Asmanti, pour moi, c'était une envie de poser le décor. En fait, de vraiment situer où est-ce qu'on est, avec qui on est, poser des personnages, mais qui peuvent être plein d'entre nous. Qu'en fait, il y a pas de décor concrètement, il y a un banc, une chaise, mais que rien qu'avec ça, on arrive à s'imaginer, en fait, où est-ce qu'on est.
Pour mettre un peu en contexte aussi, Bac Nord, c'est aussi pour faire référence au musicien Bac, mais aussi au film Bac Nord de Cédric Jiménez, qui se passe à Marseille, qui raconte les événements d'une intervention policière dans les quartiers nord du point de vue des policiers.
Une intervention réelle. Hein,
ouais, basée sur en quelles années? En quelle année 2012?
Je sais plus. Franchement, je sais plus en quelle année ça s'est passé, mais ça c'était il y a pas si longtemps, puisque il y a eu des jugements jusqu'à je crois le début d'année, hein, si je me trompe pas.
Mais c'est ça déshumanise beaucoup aussi la perspective du moins du film déshumanise vraiment les jeunes des quartiers. Puis pour les gens qui connaissent pas nécessairement le contexte politique dans lequel le film s'insère, surtout ceux qui nous écoutent de Montréal, il commence à être aussi récupéré par l'extrême droite en France. Ce serait intéressant, je pense, de mettre un peu en contexte toute la trame derrière.
Ouais, ce film, il s'inscrit dans cette comment dire, pas forcément le réalisateur, hein, de ce qu'il en dit lui, il dit que pour lui, il a voulu faire une fiction inspirée des faits réels et qu'après la récupération politique qui en a été faite, lui a échappé. Mais en tout cas, ce que fait ce film, mais ce que font beaucoup d'autres œuvres cinématographiques et autres, ce que fait toute la sphère médiatico-politique constamment, c'est de déshumaniser, désinfantiliser les jeunes des quartiers populaires. Où en fait, les jeunes des quartiers sont toujours vus comme une menace, jamais comme des gens, jamais comme des personnes ayant une histoire, un parcours de vie, des émotions, et étant des personnes comme les autres. Et donc ne méritant pas la même empathie, le même respect de la loi de la part de la police. En gros, que la police respecte pas la loi dans les quartiers, ça a pas l'air d'offusquer grand monde en France. Alors j'exagère quand je dis ça, ça en offusque certainement certains, mais en tout cas c'est pas tellement ceux à qui on donne la parole. Voilà, il y a encore quelques mois, il y a eu des assassinats de la part de la police sur des personnes issues de quartiers populaires, des personnes racisées. Bon, ça passe. comment ça passe, en fait. Et pour moi, ça, c'est l'aboutissement, en fait, d'un processus qui dure depuis longtemps, qui est sûrement lié aussi à l'histoire coloniale, etc. Où, en fait, ouais, les jeunes de quartier, c'est pas des humains à part entière, en fait, on dirait.
Ben, dans le film, juste comment ils sont représentés, c'est comme une espèce de bloc monolithique avec cagoulés, qui font peur, qui sont méga dangereux, qui se jettent sur les voitures de manière quasiment, je mets des gros guillemets, sauvage.
C'est ça.
Ces personnes-là ont zéro, comme tu disais, histoire, zéro explication du contexte de vie, de comment ces personnes-là sont dans des quartiers de la ségrégation.
Alors que le film, de base, il est censé montrer comment la BAC Nord, donc une unité de police, comment ils ont dépassé la loi, comment ils ont pu être violents, comment ils ont pu prendre part à des trafics. En fait, le thème du film, en tout cas quand on l'attendait, c'était ça. On attend de voir comment la BAC en fait a merdé. Et puis en fait, on voit un film, on se dit, mais en fait, si on le regarde d'un œil étranger à la situation, on se dit, ah bah c'est normal, en fait, qu'ils aient fait ça. Ces quartiers-là méritent pas autre chose, en fait. Et ça, c'est insupportable. Ouais. C'est insupportable. C'est comme si on justifiait vraiment une police qui respecte pas la loi. Et ça, c'est inentendable, pour moi, en tout cas.
Et comment le dispositif, tu sais, je trouve ça drôle que le réalisateur dise que ça, la façon dont il a représenté les événements est vraiment te fait compatir. C'est tout est fait pour que tu t'identifies, tu aies de l'empathie pour les personnages des policiers parce qu'après, c'est vraiment eux qui sont présentés comme des victimes. Ah, pauvres, ils vont en prison. Ah, leur vie, elle est gâchée. Ah, les pauvres. Et celles qui payent le prix, c'est, c'est horrible. La fin, les couples, c'est une tragédie pour cette femme-là qui, bref, je vous laisse voir le film. Ouais, c'est ça. Allez écouter les critiques, vous allez comprendre, mais c'est, au final, tout est politique, puis je trouve ça un peu pas dommage, c'est pas le bon mot, mais que le réalisateur fasse comme s'il s'en lavait les mains. En fait, il s'en lave les mains.
Ouais, comme s'il n'était pas responsable. Ce qui a été terrible, c'est que ce film, il a été projeté au moment de la campagne présidentielle par un syndicat de police, dont le syndicat Alliance, qui est un syndicat de droite, voire d'extrême droite, devant les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle. En gros, en disant « Regardez dans quelle situation on travaille comme si c'était un documentaire, quoi.
Ouais. » Ouais, exact. Il y a plein de façons de faire des films, puis il y a vraiment des façons d'en faire où est-ce qu'il y a vraiment moins de prise de position, puis vraiment plus une caméra neutre. Mais bon, ce n'était pas le cas. Puis bon, pour justement, dans une optique de donner de la gentilité aux jeunes qui ne sont pas ce qu'on raconte d'eux dans ces films, t'as aussi décidé de les impliquer activement dans le processus de création. Et c'était des danseurs, pour la plupart, amateurs. Moi, je serais curieuse d'en savoir plus sur comment t'as procédé pour recruter les gens, comment le projet s'est vraiment lié à ces personnes-là qui ont participé.
Ben, écoute, ça a été assez naturel. Enfin, vraiment, l'idée, moi, c'était de dire, ben, si on dit qu'on donne la parole à la jeunesse de quartier. Moi, je suis plus si jeune, mais danseurs pro, ils sont quand même plutôt jeunes aussi. Mais en tout cas, on s'est dit, ben, faisons-le vraiment, faisons-les monter sur scène. Ben, c'est parti moi, je donne pas mal d'ateliers dans les quartiers. Donc, j'ai commencé à en parler aux jeunes que j'avais en atelier, même si c'était des contextes autres que celui de Bac Nord. Je travaille pas mal avec des rappeurs. Il y a plein de jeunes que je connais. Moi, je suis une grande sœur pour pas mal de jeunes de ma zone, j'ai envie de dire. Et donc, je leur ai parlé du projet. On a aussi travaillé avec un collège qui s'appelle Henri Vallon dans le 14e. Ça s'est fait presque par hasard. Moi, je suis intervenue là-bas pour des ateliers. J'ai parlé du projet à une prof qui a été trop intéressée et hyper soutenante. Les portes du collège, du coup, se sont ouvertes. On a présenté le projet à des classes entières. Et ça, c'était cool parce que moi, j'avais envie qu'on ne touche pas que des gens qui me connaissent déjà, que des gens qui connaissent déjà la danse. J'avais envie qu'on aille vers des minots qui ont vraiment aucun lien avec la danse pour qu'ils puissent voir qu'en fait c'est aussi pour eux. Et on a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de monde. Au final, ceux qui sont vraiment restés, c'est ceux qui étaient hyper motivés parce que les répétitions, elles étaient pendant les vacances scolaires. Parce qu'on a fait des résidences, pas beaucoup, on a fait que 2 semaines parce que vu qu'on avait un budget serré, on a créé en 2 semaines. Et c'était sur des vacances scolaires, donc ceux voilà qui étaient vraiment déter au point de passer les vacances avec nous, sont restés jusqu'au bout. Mais en tout cas, tu vois, sur scène, tu avais une dizaine de danseurs pros et une quinzaine de danseurs amateurs. Mais le projet, il a concerné quasiment une centaine d'amateurs des quartiers noirs avec qui on a réfléchi, avec qui on a essayé des trucs, avec qui on a parlé, avec qui on a dansé, avec qui on a fait des enregistrements de voix. Finalement, j'en ai mis qu'un peu dans le spectacle parce que voilà, en tant que spectateur, si ça dure trop longtemps, enfin, c'était pas intéressant, mais On a beaucoup parlé avant de danser.
C'était quoi le processus dans l'oralité, justement? C'était comment c'était amené de parler, c'était travailler un peu à partir de leur expérience?
Oui, la question, c'était qu'est-ce que toi, en tant que jeune des quartiers nord d'aujourd'hui, t'as envie de dire aux gens qui te connaissent pas? Et c'est drôle parce qu'il y en a plein qui... Enfin, plein. Il y en a un certain nombre qui, déjà, eux, quartier nord, ils ne savaient même pas ce que c'était vraiment. Tellement, en fait, c'est une étiquette qu'on projette de l'extérieur. Et il y en a, ils me disaient, mais nous, on est de Marseille, on est du sud, on n'est pas du nord. Alors qu'à Marseille, pour tout le monde, c'est très clair, la frontière quartier sud, quartier nord, mais c'est pas forcément évident pour les plus jeunes d'entre eux, en tout cas ceux qui avaient 11 ans, 12 ans, de capter qu'ils étaient étiquetés déjà jeunes des quartiers nord. Et après, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire? Qu'est-ce que tu as envie de dire de toi? Qu'est-ce que tu veux que les gens sachent? Qu'est-ce que tu penses que les gens d'ailleurs pensent de toi? Et on a entendu des choses qui sont difficiles, qu'on a pas envie d'entendre de gamins de 12 ans, tu vois. Moi, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée et qui résonne beaucoup avec l'actualité marseillaise en ce moment. Il y en a une qui m'a dit, le quartier, et qui résume vachement bien, je trouve, elle dit, le quartier, c'est cool, on rigole vachement, mais il y a beaucoup d'entre nous qui vont mourir jeunes. Et c'est vrai. Enfin,
c'est un peu plus penser au terrain sensible.
Ouais.
Qu'est-ce que le personnage dit ici? Les gens grandissent pas, ils vieillissent.
Ouais. Ouais, il y a une espèce de temps qui est parfois figé. Ouais.
Mais c'est comme les opportunités sont pas les mêmes. Mm. C'est aussi c'est politique en soi. De l'argent, il va où?
Ouais.
Tu as parlé de l'oralité, puis je trouve ça intéressant parce que ça amène un peu pour parler de comment je voulais aborder le reste du travail chorégraphique. C'est très riche parce que ça rejoint plein de formes de création. Il y a la musique, le théâtre, le cinéma. Puis j'aimerais qu'on commence à parler de la musique en écoutant peut-être l'extrait de la composition de Arsène Magnard qui a été créée pour la pièce. cette musique. C'est un extrait de la musique sur laquelle vous dansez pendant la pièce Bach-Nord. Elle a été composée, comme je disais, par Arsène Magnard à partir d'une partition de Jean-Sébastien Bach, d'où le jeu de mots. Ça a été adapté pour la guitare et rejoué sous des styles musicaux comme la drill et la chata. Donc, je serais curieuse de savoir comment ça fonctionnait, cette fusion aussi de Bach-Nord, le film Bach-Nord, le compositeur, et comment il a procédé pour faire cette composition-là.
Comme beaucoup de choses avec moi, c'est parti d'une blague. En fait, quand j'ai vu le film Bach-Nord, je me suis dit, ouais, il mériterait qu'on lui fasse une réponse avec plein de gens des quartiers nord et tout. Et puis, je sais pas, j'ai rigolé, j'ai dit, on va faire Bach-Nord, mais genre Bach, ça sera Jean-Sébastien Bach. Et du coup, ben, je me suis dit, mais en vrai, de vrai, j'aimerais bien le faire pour de vrai, en fait. Du coup, j'ai appelé Arsène. Arsène, c'est lui qui a composé aussi à ce moment-ci, midi, minuit. Vraiment, c'est mon binôme de création. Et je lui ai dit, Arsène, tu penses que c'est possible? Est-ce que je suis en train là de fantasmer un truc qui est fou, ou est-ce que c'est possible? Et lui, il m'a dit, ben non, il m'a dit, c'est grave possible. Il m'a dit, en plus, Bach, franchement, s'il était vivant, c'est sûr, il serait d'accord. Parce que vraiment, c'est un mec qui était pour, comment dire, plus d'ouverture. Et donc, je lui ai dit, mais je veux pas qu'on tombe dans le cliché de faire du hip-hop sur de la musique classique. J'ai dit ça, moi, ça a été fait, et très bien fait par d'autres compagnies. Flemme. Moi, j'ai pas envie de danser sur de la musique classique. J'ai envie qu'on fasse de la musique qui nous ressemble. Et en plus, ça serait pertinent de se servir de ça pour montrer la créativité de nos quartiers et de la culture urbaine en général, qui évolue sans cesse. En fait, il y a constamment des nouveaux styles musicaux. Donc, je lui ai dit, viens, on fait un truc vraiment d'aujourd'hui. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il ferait Bach si c'était un mec de la Castellane en 2023, si c'était un mec qui faisait des instrus pour des rappeurs, tu vois? Quelle musique il me ferait? Je lui ai dit, va sur de la drill, s'il te plaît. Moi, j'aime trop la drill. Et il m'a fait un premier essai que j'ai pas aimé, qui reprenait vraiment un concerto de Bach et sur lequel il avait rajouté des percus. C'était hyper technique, vraiment. Quand je lui ai dit que j'aimais pas, il était dégoûté parce que il s'était vraiment cassé la tête pour suivre la partition. Je saurais pas t'expliquer exactement comment, vu que moi je suis pas musicienne, tu vois, mais c'était techniquement un truc de fou. J'ai dit, ouais, mais c'est un truc de fou, mais à entendre, c'est chiant. Donc non, il faut essayer autre chose. Et donc j'ai donné d'autres références, j'ai fait écouter des sons que j'aimais bien. Après, il y a eu l'idée du chata. Le chata, donc c'est un style de dancehall. Et ça, c'est juste parti pareil d'un délire. J'étais dans le bus, j'écoutais un son d'un mec qui s'appelle Kalash. J'étais trop ambiancée. Je me suis dit, ben vas-y, je veux ça en fait dans mes spectacles. Moi, je fais des spectacles, c'est pour kiffer d'abord, hein, pour kiffer et faire kiffer nos gens. Ouais, prenons des trucs d'aujourd'hui, des trucs qui nous ressemblent. Je lui ai dit, Arsène, tu me fais un chata avec. Là, il m'a dit, t'es taré. Quand j'ai dit ça à mes danseurs, ils ont tous cru que c'était une blague. Et ben non. Et en fait, il m'a fait ça merveilleusement bien. Une fois qu'il a capté ce que j'avais envie, et c'est ça qui est cool dans le travail avec Arsène, et c'est pour ça que j'adore travailler avec lui, c'est que moi, je sais pas faire de la musique. Mais par contre, je sais exactement ce que j'aime et ce que je veux. Et lui, il arrive vraiment à capter ça et à le retranscrire. Parce qu'en plus, Arsène, lui, de base, il fait de la musique électronique, il fait pas de la drill, il fait pas du chata. Mais c'est un putain de génie. Parce que vraiment, le son chata, là, quand il nous l'a fait entendre, on a pété les plombs. Et pour moi, dans Bach-Nord, ce qui fait vraiment la qualité du projet, c'est aussi la qualité de la bande-son, où vraiment, en création, en danse, t'entends pas des sons comme ça sur scène.
Il y a aussi c'est le sous-titre le deuxième titre, le sous-titre de la pièce Sortez les guitares. La pièce s'ouvre sur une guitare acoustique, ouais. Et après, on rentre tout de suite dans le tempo qui est un peu toujours en train d'augmenter. Le rythme, toujours, comme tu disais, t'aimes bien les pentes qui montent.
C'est ça, j'aime bien quand ça finit en haut et quand ça s'arrête sec, tu sais, quand tu veux que ça continue. Mais c'est ça, tu vois, la guitare, c'est un autre clin d'œil, c'est qu'à Marseille, les guitares, on appelle ça les calaches. Les calaches, on appelle ça les guitares. Ah, okay. Donc, quand quelqu'un te dit on sort la guitare, en général, c'est pas une bonne nouvelle. Et du coup, j'avais envie de ce petit clin d'œil-là, où en fait, ben voilà, ce qu'on dit de nous tout le temps, ce qu'on attend de nous tout le temps, c'est qu'on sorte les calaches, qu'on sorte les guitares, ben on va les sortir, mais cette fois, ça sera une vraie. Et puis, en plus, déjà, à l'oreille, j'aimais bien, tu vois, le fait qu'il joue du Bach à la guitare, je trouvais ça, moi, ça me parlait plus qu'au violon. Il y a cette image aussi, tu vois, du film Desperado, je sais pas si tu vois. Ça date un peu, mais c'est Antonio Banderas en fait qui a eu une arme en fait dans un étui à guitare, et c'est un bandolero sud-américain. Enfin, il y avait plein de références pour moi dans cette image du mec cagoulé à la guitare là.
C'est fou parce que Bach, je connais très peu, Puis quand
moi
vraiment,
aussi,
hein. Je sais pas si les gens qui sont vraiment des experts de Bach, quand ils entendent la partition, ils sont capables de reconnaître.
Je pense que ouais. C'est fou. Parce qu'Arsène, lui, il connaît bien Bach. Arsène, il a fait un conservatoire de musique dans lequel il n'a pas été diplômé parce qu'on lui a dit qu'il était pas assez académique à un moment et qu'il réussirait jamais à rien faire. Et mais il adorait Bach. Et en fait, c'était aussi un défi pour lui. Et c'est lui qui joue sur scène à la guitare. C'était aussi un défi pour lui de jouer une partition de Bach à la guitare parce qu'en fait, c'est hyper dur. Là, pareil, moi, je me rends pas compte, mais il a vraiment bossé de fou pour pouvoir jouer ce morceau à la guitare. Et je crois que c'est une vraie performance musicale, en fait, ce qu'il fait là. Autant dans la composition que dans le jeu. Et ouais, je pense que les gens qui connaissent Bach, ils savent.
C'est vraiment un coup de génie, pour vrai. Puis là, on a parlé un peu du début de la pièce, quand ça commence avec la guitare. Puis c'est un peu comme dans Asmanti, les personnes arrivent tranquillement. Il y a comme une espèce de mise en place, comme tu disais, mettre le décor.
Ouais.
Et comment les mouvements arrivent, ça fait un peu toujours à la frontière de la danse et du théâtre. Comme tu disais, il y a comme toujours un contexte, il y a des gens qui sont à l'arrière-scène, qui courent autour. Moi, je me demandais comment ces mouvements-là sont nés. Est-ce que c'est né de situation? C'est né d'idées des danseurs ou comment ça se passe?
En fait, on a cherché ensemble les mouvements qui, pour nous, ouais, posent le décor. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire qui vraiment représente notre quotidien, qui nous définisse? Parce qu'en plus, là, voilà, on est cagoulés à ce moment-là. C'était aussi pour reprendre l'image de Bach Nord où on est tous cagoulés et en même temps dire que c'est souvent comme ça qu'on nous représente, sans identité, en fait, sans identité propre. Et ces mouvements, c'était, ouais, une façon d'amener un dialogue, de commencer une discussion avec le public. Et c'est vrai que la frontière avec le théâtre, elle est mince. Mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai pensé au début. Ça s'est fait naturellement et je pense que c'est parce que, moi, j'ai pas grandi malgré le fait que je pratique la danse depuis hyper jeune, j'ai pas grandi dans les théâtres, dans la création en danse. Je me reconnais pas forcément dans la création en danse. Et par contre, j'ai bouffé du cinéma. Genre, moi, j'adore les films. Et puis, j'adore le rap. Et du coup, je sais pas, j'aime bien quand on peut se dire des choses vraiment, en fait, quand on se comprend, quand c'est lisible. Et quand, en fait, on fait les choses sans compromis aussi. Parce que trop souvent, on attend de nous qu'on soit plus lisse, qu'on soit plus politiquement correct, qu'on soit mignon, qu'on fasse pas de vagues, tu vois. Les jeunes de quartier, on doit pas faire trop de vagues si on veut faire partie de ce pays. Ben non. En fait, on fait des vagues, on va dans ce qui est vrai, dans ce qui nous représente. Et puis, si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis.
Moi, ce que j'avais aussi remarqué, c'est que tout le monde avait son solo. Ça paraissait qu'il y avait comme aussi quelque chose qui venait des danseurs, qu'il y avait vraiment un processus chorégraphique qui était impliquant.
Dans Bach Nord, tu vois, dans Asmanti, j'ai donné beaucoup, beaucoup moins. Et je pense que c'était important de le faire aussi pour montrer une patte chorégraphique, tu vois, un truc. Et dans Bach Nord, c'est vrai que, vu que c'est aussi l'idée de rendre plus humain, en fait, ces personnages, la fantasmatique, là, qu'on parle toujours comme étant une entité, là, les jeunes de quartier, j'avais envie, ouais, que chacun puisse s'exprimer plus avec son vocabulaire, avec son identité. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec eux sur des solos. Et les solos, effectivement, c'est eux qui ont amené leur style, leur identité. Moi, je les ai un peu guidés sur ce que j'avais envie que ça raconte, à quel moment, etc. Mais la gestuelle, vraiment, c'est des gestuelles qui leur appartiennent.
Et comment c'était guidé? J'avais entendu, je pense, que tu faisais comme une espèce de mise en situation. Comment t'agis dans tel contexte? Puis comment ton corps répond à tel événement?
Ouais, moi, je travaille, encore une fois, vu que je suis peut-être plus influencée par le cinéma que par la création en danse, je pars de personnages, de situations. Et en fait, quand j'attends d'un danseur qu'il me donne quelque chose, j'attends pas qu'il s'agite. Vraiment, l'agitation, ça m'intéresse pas du tout en danse. J'attends qu'il me fasse vivre un moment. Et du coup, ouais, à chaque fois, je lui dis, toi, t'es cette personne-là, dans ce contexte-là, à ce moment-là, comment tu danses, si tu veux me dire ça, en fait.
Comment tu communiques avec le langage du corps, pour dire, ouais. Et là, tu parlais de cinéma comme quelque chose qui t'a beaucoup passionné. Et ça se sent parce que le rapport à l'espace, c'est très cinématographique. On a comme toujours le sentiment qu'il y a comme une caméra, des fois, qui circule entre les danseurs, parce que des fois, il y a comme vraiment un mouvement qui a plus d'ampleur. Après ça, ça change de perspective. C'est vraiment intéressant parce que, comme je disais, il y a des solos. Fait qu'on a toujours un équilibre entre l'individualité puis aussi la cohésion du groupe. Comme si on était comme guidé par la chorégraphie.
Ça me fait plaisir que tu me dises ça, en fait, que ce soit lisible, parce que pareil, tu vois, moi, je travaille vachement à l'instinct. En fait, je planifie pas les choses, je prépare jamais rien. Mais c'est vrai que je pense que le cinéma, moi, il m'a imprégné. Et du coup, j'ai ce rapport-là à un scénario, à différents plans. Les clips aussi, je parle du cinéma, mais aussi, tu vois, les clips de rap, moi, j'en ai tellement mangé. Et du coup, ouais, inconsciemment, vraiment, je pense que du coup, ben, ma structuration de l'espace, elle se fait comme ça, comme un cinéma. Et pourtant, je sais pas tenir une caméra. Je le regrette parce que je crois que j'aimerais trop faire ça. Mais du coup, je le fais avec la danse.
Il n'est pas trop tard. Hein. C'est quoi les... C'est une question que j'ai même pas écrite dans mon plan, mais c'est quoi les films que... C'est en plus marqué.
Il y en a plein. Moi, je suis une grande adepte de Scorsese. D'ailleurs, on m'appelle Score 13 parfois. Pour rigoler.
C'est bon. Ça peut être un nom de rappeuse.
Mais ouais, mais tu sais, je l'ai marqué sur mon Insta il y a pas longtemps. Je me suis dit, ouais, j'ai bien envie que ça reste le Score 13. Et ouais, du coup, les Scorsese, tout ce qui est Tarantino, évidemment, la trilogie du Parrain qui m'a. Comment j'ai retourné la tête. J'étais certainement beaucoup trop jeune pour voir tous ces films, en fait. Parce que j'avais des oncles aussi, moi, et des cousins qui étaient passionnés de cinéma. J'ai souvenir d'un moment où j'avais été hospitalisée pour mes dents de sagesse, là, et j'ai passé 3-4 jours à la maison sur un canapé à pouvoir rien faire. Et il m'avait ramené, mon oncle, plein de DVD. Et en fait, de tous ces films-là, tous les films de gangsters, là, qui, les Scarface, les Affranchis, Il était une fois le Bronx, il y en a plein, il n'y en a pas beaucoup qui les ont vus. Moi, je les ai vus, mais quand j'avais 12 ans, quoi.
Waouh! Ben, c'est cool que quelque chose que. Je pense que dans la création, plein de choses qu'on a regardées, qu'on a vues, surtout à un jeune âge, on s'en rend pas compte, mais ça fait tellement un chemin.
Clairement, je me sens comme une tisane. Tu sais, il y a des trucs qui. J'étais nourrie de plein de trucs qui n'avaient aucune cohérence entre eux, vraiment entre, tu vois, le conservatoire, la fac, le quartier. Et en fait, j'ai l'impression que tout ça a infusé sans que je m'en rende compte. Et qu'en fait, que là, maintenant, tout devient logique.
C'est une belle image. Je suis une tisane. J'aime ça. Le spectacle, justement, a été présenté avec la mairie des 15e et 16e arrondissements. On parlait de l'ouverture de la mairie de Marseille, justement, à ses politiques, à ouvrir à d'autres avenues de création. Mm. C'était présenté au Théâtre de la Sucrière, qui est dans un lieu extérieur, qui est pas une salle faite pour le spectacle. C'est pas un théâtre institutionnel. Je me demandais deux questions. Est-ce que la chorégraphie, elle était faite pour ce lieu? Comment vous travaillez en fonction de la scénographie, de la scène où vous performez? Bon, on peut commencer par ces questions-là.
Ouais, ça a pas été créé vraiment pour ça, dans le sens où quand on a commencé la création, on n'avait pas encore défini le lieu où on allait jouer. Et puis, moi, je suis vraiment attachée à l'idée de, ouais, on peut jouer mes pièces dehors et au quartier, et on le fait, tu vois, Bac-Nord, on l'a joué à Mantes-la-Jolie, par exemple, dans un grand quartier qui s'appelle le Val-Fouré, avec des jeunes de là-bas. Mais je veux aussi qu'on soit sur scène. Et avec Asmanchi, ça a été un peu mon combat de, ouais, j'ai envie qu'on soit au quartier, mais pas que, parce qu'en fait, sinon, on rejoue nous-mêmes, tu vois, notre propre enfermement. Mmh. Autant j'ai envie d'y être, parce que le public, le quartier, c'est pas forcément... un public qui se déplace au théâtre, ou en tout cas moins que ce qu'on voudrait. Et j'ai envie, du coup, que les gens puissent voir mon spectacle. Et en plus, qu'on puisse le faire avec les jeunes du quartier. Donc, ça a tout son sens de le faire dehors. Mais on a aussi notre place sur scène, en fait. Et ça, c'est pas toujours évident. On me propose pas mal de jouer sur les parvis des théâtres, tu vois. Et moi, je suis embêtée par ça, parce que autant j'ai envie de jouer au quartier, autant j'ai envie de jouer sur scène. Le parvis du théâtre, symboliquement, c'est un truc qui m'embête, quoi. C'est nous laisser devant la porte, encore une fois. Et en même temps, je suis pas trop en mesure de refuser les opportunités, parce qu'on est une jeune compagnie, et que j'ai envie que nos spectacles y vivent, et qu'il faut que mes danseurs y vivent aussi, etc., tu vois. Mais, du coup, ouais, il y a cet enjeu-là de jouer partout, mais plutôt pas devant les portes, quand même.
Comme si l'excuse du fait que c'est de la danse urbaine, ça venait un peu justifier une exclusion.
Ah bah, complètement. C'est super, c'est de la danse de rue, danser dans la rue. Bah ouais, c'est cool. Mais nous aussi, on a le droit d'être sur scène, en fait.
Quand on parlait des choix politiques, de la mairie, et moi, ce qui m'a aussi fait réaliser à quel point la répartition des lieux culturels dans Marseille, c'est tout est centré, tout est dans le même endroit.
Il y a la scène nationale, quand même, du ZEF, tu vois, qui est à la Busserine.
OK.
Mais c'est le cas dans pas mal de villes, en fait, où il y a beaucoup de choses concentrées dans les centres-villes, dans les quartiers, comment dire, CSP+, là, je sais pas comment on dit. Mais en général, il y a toujours un lieu quand même dans les quartiers pour dire, regardez, et puis parce qu'il y a des financements pour ça, etc. Sauf que la programmation de ces lieux, elle est souvent pas du tout adaptée au lieu dans lequel elle est. Enfin, moi, par exemple, dans le quartier du Mirail, il y avait, dans ma cité même, il y avait un espace culturel où il y avait des spectacles, et dans la cité juste à côté aussi, un centre culturel où il y avait des programmations. J'y ai jamais mis les pieds. Alors que j'étais danseuse, tu vois. Alors, il y a sûrement une part de ma faute à moi où j'ai sûrement pas fait la démarche d'y aller. Et en même temps, il y a un truc dans le lien, en fait, entre les lieux culturels et les populations qui se fait pas, du coup, et c'est ça que ça veut dire. Et du coup, les responsabilités, elles sont sûrement un peu partagées, et c'est le cas pour moi à Marseille, en fait. Le truc, c'est bien de mettre des lieux culturels dans les quartiers, mais sauf que si ce que vous mettez dedans, ça a aucun lien, et ça parle pas, et c'est inaccessible pour les gens qui vivent autour, bon. Tu vois, tu fais des navettes avec le centre-ville, tu fais venir les gens du centre-ville, ok, très bien, ils font leur petite sortie dans le quartier. Faut pas que ça finisse trop tard, parce qu'après ça fait peur le quartier, et puis voilà.
On est dans un lieu comme ça. La friche, ouais. Je trouve que c'est ouais. Très le cas.
Ouais.
Pour qui est faite la culture, par qui?
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. Et comment on fait? Parce que je pense qu'il y a plein de volonté que ce soit autrement. Tu vois, moi, quand je parle avec des directeurs de lieux culturels, ils ont envie de diversité. J'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, et je pense que c'est sincère. Mais sauf que pour mettre en place une programmation qui parle à tout le monde, il faut discuter avec tout le monde. Et qu'en fait, tu as beau avoir toute la volonté du monde, mais si tu décides de ta programmation qu'avec des gens qui te ressemblent, qui ont la même histoire que toi et les mêmes goûts que toi, ben frère, ça va pas marcher. Hein.
Non.
Donc bon, on a de la chance d'avoir quand même des lieux qui nous ont suivis. Là, c'est le Festival de Marseille qui a vraiment rendu ça possible. Hein. Mais pas beaucoup, hein, parce que en termes de moyens, si tu disais le budget qu'on a eu pour Bac Nord, c'est dérisoire. Personne crée pour ces montants-là. Tu vois, on a fait 2 semaines de résidence, personne fait ça. Une créa, c'est en général 5 semaines, 6 semaines. En tout cas, tout le monde trouve ça génial, mais personne n'a envie de mettre d'argent dessus, tu vois. Personne, j'exagère. C'est pas vrai, on a quand même eu des soutiens, tu vois. Mais en tout cas... pas autant que sur d'autres projets. Mmh. Alors c'est super, c'est génial, Marina Gomez, les jeunes de quartier et tout. Et frère, je crée avec rien du tout, tu vois.
Mmh.
Je crée avec rien du tout, faut rogner sur tout, faut pas trop demander.
Faut pas faire de vagues.
Faut pas faire de vagues, ouais. Il faut se contenter, il faut dire merci, tu vois, ce truc-là un peu. Ouais. Et au début, on le dit, merci. Parce que ouais, c'est trop bien, genre, chance de fou de pouvoir faire tout ça. Et puis quand on prend un peu de recul, on se dit, mais peut-être que juste qu'on mérite, en fait, comme tout le monde.
C'est quoi le retour sur les représentations, justement? Comment ça s'est...
Hyper positif.
Ouais.
Mais, ouais, que ce soit le public, les politiques, on a M. Coppola, là, qui est l'adjoint à la culture de l'Amérique, qui est vraiment venu nous féliciter, qui a parlé de notre travail au conseil municipal en disant « Les quartiers populaires méritent autre chose que ce qu'on dit de tout le temps. Il se passe plein de belles choses. » Enfin, vraiment, qui a capté le message et qui l'apporte. Enfin, il était déjà conscient de ça avant, hein. J'ai pas la prétention de l'avoir éclairé sur la chose, mais en tout cas, vraiment, il a porté notre message au niveau politique. On a eu plein d'articles, la presse nationale, internationale. Non, franchement, on a mis tout le monde d'accord. Mais financièrement, c'est toujours sec, tu vois.
Puis les jeunes, pour eux, c'est que c'était aussi une expérience. C'est pour les ceux qui n'ont jamais dansé professionnellement.
Ouais, ça, c'était incroyable. Et ça, c'est la plus belle des victoires. C'est parce que. Il y en a, ils m'ont suivi là-dedans parce qu'ils me font confiance, mais je pense qu'ils s'imaginaient pas du tout ce qu'on allait vivre. Et ça a créé... Puis mes danseurs pros aussi, c'est des bons, tu vois. Et vraiment, avec les petits, il y a eu une espèce de rapport de fraternité qui s'est créé. On a partagé trop de bons moments. Les petits étaient tellement fiers. Et puis, dans ces jeunes-là, il y en avait aussi qui étaient dans des trucs durs, tu vois. Il y en a qui sortaient de garde à vue. Il y en a qui rentraient en prison 2 jours après. Mais d'avoir vécu ça... Ces moments-là, c'est des choses qui vont rester gravées. Et de voir toute la ville, parce que du coup, le théâtre de la Sucrière, il était quand même rempli en grande partie de gens qui n'étaient pas des quartiers nord. Il y avait une partie du public local, mais il y avait quand même beaucoup le public plus habitué du Festival de Marseille. Et on a eu un public debout. Et en fait, symboliquement, au-delà de la danse, de se dire, voilà, ça, c'est la ville de Marseille qui est avec nous, là, qui comprend ce qu'on veut lui dire, et en fait, qu'on fait qu'un à ce moment-là, et ça, c'était vraiment trop, trop bien, et personne pourra nous l'enlever, ça, tu vois, budget, pas budget, tournée ou pas, je sais pas ce qui va se passer derrière, on essaye, en tout cas, qu'il se passe des choses, mais ça bougera pas. Et là, demain, quoi, du coup, qu'on rejoue avec de nouveau les jeunes à qui j'ai proposé d'être avec nous, ben, voilà, tout le monde est trop content de se retrouver. Parce que la pièce, quand on la bouge, on l'a fait avec des jeunes d'ailleurs aussi.
Ok, je savais pas.
C'est vraiment ça l'idée, parce que techniquement, on pourra pas réussir à faire tourner le spectacle avec 25 danseurs d'ici. Puis bon, les petits, c'est des mineurs et tout. Enfin, c'est archi compliqué. Et du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est dans chaque endroit où on va aller, soit on pourrait faire la version que professionnelle, mais ça m'intéresse un peu moins, c'est vraiment d'inclure les jeunes locaux dans le spectacle. C'est ce qu'on a fait à Mantes-la-Jolie. On a fait une résidence là au pied des tours, vraiment dans un quartier. On était dehors toute la journée, c'était au début juillet, c'était trop bien. Et en fait, au fil de la semaine, on a recruté comme ça des jeunes qui ont dansé avec nous à la fin de la semaine. Là, on est en contact avec des théâtres aussi à l'étranger. Alors, la question, ça va être, voilà, financièrement, est-ce que ça va être possible?
Ce serait où, à l'étranger?
On parle avec Madrid et avec Stockholm pour le moment. Ça serait trop bien, mais voilà, la question est... Entre ce que les gens ont envie de faire et l'argent qu'ils sont prêts à y mettre, des fois, il y a un écart. Parce que voilà, moi, je suis pas encore connue, même si ça commence un petit peu. Et du coup, voilà, pour une jeune compagnie, on veut bien mettre un peu, mais pas trop. Mais sauf que moi, j'ai beaucoup de danseurs. C'était un choix risqué, hein, de prendre beaucoup de monde. Je savais qu'il y avait ce risque-là. C'est plus facile de faire tourner un duo qu'une pièce où tu as 10 danseurs pro. Ouais. Mais en même temps, artistiquement, cette pièce, elle avait besoin de monde.
Ouais.
Donc, voilà.
Quelle est cette particularité-là aussi de pouvoir prendre aussi des gens localement?
Ouais. Et tu vois, voilà, il y a des compagnies que je ne vais pas citer, ils font danser 25 danseurs, ils coûtent une blinde et ils tournent. Donc les lieux, quand ils ont envie de mettre une somme sur un spectacle, ils peuvent le faire, c'est juste une question de volonté. Et tu vois, le théâtre à Mantes-la-Jolie, là, où on a fait Bac Nord, c'est un endroit qui a zéro moyen, c'est un centre culturel de quartier, vraiment c'est un tout petit lieu et ils ont réussi à nous accueillir parce qu'ils ont demandé les financements pour faire le projet. Donc je me dis que si eux peuvent le faire, c'est vraiment une question de volonté, tu vois. Exact. Si des petits lieux, ils arrivent à mettre en place le projet, parce que certes, ils coûtent un peu d'argent parce qu'il y a beaucoup de monde, mais on n'est pas très gourmand, tu vois. On fait pas de marge, on fait pas... Enfin, personne qui s'enrichit, malheureusement. Mais peut-être un jour, j'espère. Mais en tout cas, juste on demande de respecter le droit du travail et de payer les professionnels, tu vois.
Ouais. En culture, c'est une immense lutte.
Ouais, c'est ça. Mais sauf que moi, sur ça, je suis pas d'accord, je flancherai pas sur ça, tu vois. Et d'autant plus de par le propos qu'on tient, moi, mes danseurs, ils sont tous plus ou moins issus de quartier, etc. Ben, si tu travailles pour moi, t'es payé, point, tu vois. C'est hors de question que ce soit autrement.
Ouais, c'est pas juste des petits bénévoles.
C'est ça. Alors, on essaye de rogner sur tout, tu vois, sur l'hébergement, sur les transports. Mais par contre, non, pas sur le droit du travail, quoi.
Je comprends. On va aller vers le deuxième choix musical.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous présenter la chanson que tu as choisie?
Bah, du coup, c'est Jules, c'est ma rue. Jules, moi, je l'aime trop. Parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, pour moi, c'est vraiment un mec qui actuellement a réussi à synthétiser l'ambiance marseillaise et à la mettre dans sa musique. C'est un mec qui a été hyper décrié au début, présenté comme un imbécile, tu vois, quelqu'un qui sait pas écrire, parce qu'effectivement, ce qu'il fait, c'est différent du rap d'avant. Et puis, petit à petit, le gars, il a mis tout le monde d'accord, quoi. C'est le mec qui vend le plus en France. Sa musique, elle a une influence sur l'Europe entière. Maintenant, t'as des rappeurs espagnols comme Morad, des rappeurs grecs, des rappeurs italiens, qui font, entre guillemets, du Jul, parce qu'il a créé un univers musical. Et en fait, moi, je trouve ça trop fort, et je trouve que c'est bien, c'est vraiment l'image de comment, en fait, une culture populaire, elle peut exister, elle peut grandir et elle peut parler à tout le monde, en fait. Du coup, pour ça, je l'aime trop, et ce son-là particulièrement, s'appelle Marie.
Je n'ai pas le mien, je peux pas le nier. Le flic me cherche, mon avocat il s'appelle Damien. J'ai pas de casier, j'ai la casio. Dans la C, j'ai pas ce qui est, sinon je volerai passion. Je suis ma passion, je suis un mec patient et pas chiant. Le succès c'est bon, mais je montrerai pas ma vie comme le Kardashian. Même si j'ai la Chiron. Trop de décès, ça me rend triste. T'as fait des actions de pute, t'as volé des gens, fais du mal à ta mère, fais pleurer ton sang. Va t'excuser, le but est de pas mourir en piste. Beaucoup de prise de tête, je viens de rouler une tour de piste. T'es mon pignon dans la tasse de thé. Dans la fumée, je me perds. En ce moment, à Marseille, c'est cric cric pa. Le bruit du tum tum, il fait peur. Que sur une roue, je me dis que c'est fait pour. Je suis venu pour mettre du bon dans les cœurs. De faire un tour, y'a du bon dans les tours. Là où ils font des détours, les donneurs. Big up les honneurs. Ils ont tous un Glock ici, elle fait plus d'effet. T'arrêtes plus de cogneur. Comme du coffre, santé, bonheur. Même pas je compte les coupures. Impossible que je recompte les coups durs. Je m'habille pas souvent en couture. Quand on me voit trop je change de voiture. M'en fait une rayure sans refaire la peinture. On me dit laisse rien mais moi j'ai la tête dure. J'ai plus un cheveu, le maniquer la teinture. Touche pas famille on va refaire la peinture. De quoi elle fait demain on sait pas. Wesh ma rue commencer. Et quand c'est deux frères on sait pas. On laisse même pas commencer. De quoi elle fait demain on sait pas. Wesh ma rue commencer. Et quand c'est deux frères, on sait pas, on laisse même pas commencer. À 4 dans la caisse, y'en a 3 qui ont tout dans les couilles, quoi. Tu veux tourner la part des apestes, t'étonnes pas si elle fuse les douilles. Moi, j'fais pas la course, non, j'veux pas remporter le meilleur prix. Le soleil se couche, ouais, mes potes ils vont faire l'air pris. J'aime pas quand une stat a l'air triste, fils. Là tu vas me rendre électrique, fils. Ça tombe pas du ciel, le fric, fils. Et oui, y'en a qu'on fait des sacrifices, fils. J'suis calé sur la chaise pliante.
Je fume la frappe qui rend les yeux brillants. Elle est belle, elle a tout ce qu'il faut, mais elle y a demandé du shit, ouais, comme une cliente. La vie se passe qu'à face ou hit. Tue des gens sous moi, je fais des bracos sous hit. Là, la frappe, elle vient du 9-2. Elle arrive sous vide. De quoi elle fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sait pas. On laisse même pas commencer. De quoi elle fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sait pas. On laisse même pas commencer. De quoi elle fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sait pas. On laisse même pas commencer. De quoi elle fait demain, on sait pas. Wesh, ma rue commencée. Et quand c'est deux frères, on sait pas. On laisse même pas commencer.
C'est cool que t'aies mis du Jul parce que les gens à Montréal vont pouvoir comprendre le mot de Marseille.
Ah ben voilà.
C'est la dernière chanson qui joue dans la saison du podcast. Alors, c'est une chanson qui conclut ces cartes blanches marseillaises. Et pour conclure aussi, comme à chaque épisode, le podcast Les Impostures veut parler. On veut parler du sentiment d'imposteur ou d'impostrice. Et je me demandais, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens comme, tu sais, par rapport à... avoir le besoin de vraiment défoncer une porte, qu'on te fasse sentir comme si, mettons, on te met à l'extérieur, littéralement, ouais, des portes de la scène. Est-ce que le sentiment d'imposture fait partie aussi de ton parcours, aussi, comment tu le surmontes, si c'est le cas?
Ouais, complètement, tu vois. Et puis, moi, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est celui dont tu parles, où effectivement, et pourtant, malgré le... Tu vois, j'ai fait un conservatoire. Comme, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a débarqué dans la culture hier. Mm-hmm. Mais ce sentiment-là, je l'avais déjà quand j'étais au conservatoire, où en fait, je me sentais... j'aime pas dire différente, tu vois, parce qu'il y avait aussi plein d'autres points communs avec les meufs et les gars qui étaient avec moi. Mais je me sentais, ouais, d'un univers culturel différent. Et certainement parce que je l'ai choisi, moi aussi, franchement, la culture populaire, la culture de quartier, c'est quelque chose que j'ai choisi de porter et de revendiquer. Tu vois, j'aurais pu... j'ai fait des études, j'aurais pu me glisser dans un autre personnage, je pense, mais j'ai pas envie. Et c'est vrai que... Ouais, quand je suis allée taper à la porte des théâtres, déjà il a fallu du temps, hein, pour qu'on me réponde. Mais ça, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. C'est pas spécifique à moi ou hip-hop ou quoi. Mais oui, tu sens quand t'arrives en création en danse urbaine dans un lieu qui programme plutôt de la danse contemporaine, il est intérêt à avoir un argumentaire bien construit. Hein. Mmh. Et pour le coup, moi, une des premières personnes qui m'a soutenue, elle m'a dit dès le début, elle m'a dit, moi, j'aime pas la création hip-hop. Elle m'a dit, je trouve que c'est immature. Je trouve que c'est trop narratif, c'est trop nanana. Et je lui ai dit, je suis assez d'accord avec toi parfois. C'est vrai que parfois, la création de danse hip-hop, elle est immature dans le sens où c'est une création qui est récente, déjà, donc c'est normal. Et puis, mais par contre, mature ou pas mature, elle parle à des gens, en fait. Donc, faut savoir pour qui vous programmez, si vous programmez seulement pour vous, pour tout le monde. Et il a été sensible à ça, et après, je crois que je l'ai aussi mis d'accord sur mon écriture et tout, je pense pas avoir une écriture immature. Et pourtant, elle est carrément ancrée dans la culture urbaine, tu vois. Mais il y a eu des fois, pareil, je veux pas citer les endroits, les lieux, les personnes et tout, parce que ça va me mettre en galère après. Mais je suis déjà partie d'endroits où j'étais invitée en tant que jeune compagnie, où il y avait un peu toutes les compagnies du coin, les financeurs, les trucs. Je suis rentrée chez moi quasi en chialant, en me disant je vais tout arrêter. Je suis arrivée, mais c'est trop bête de dire ça. Je suis arrivée, déjà tout le monde était en sandales, en robe et tout. Personne me ressemblait en fait, et je sentais les gens qui me regardaient en mode c'est qu'est-ce qu'elle fait là, tu vois, elle s'est perdue. Et j'ai senti ça vachement fort, alors que tu vois, j'ai pas 18 ans, j'ai une trentaine d'années, j'ai un parcours quand même et tout. Et malgré tout ça, dans ces lieux de la culture, je me sens pas à ma place, mais vraiment pas du tout. Alors là où j'arrive à le surmonter, c'est qu'en fait, vu que c'est le thème de mes créations et de mon travail, du coup, maintenant j'assume, tu vois, j'appartiens pas à votre monde, en même temps c'est pour ça que je suis là. Et j'ai aucune envie de faire l'effort, de faire semblant d'être au chaud. Enfin, déjà, j'en suis pas capable, mais j'ai pas du tout envie. Mais c'est, tu vois, c'est toujours des moments durs. Du coup, les moments, autant les entretiens individuels, ça va, parce que je me sens pas justement dans ce truc d'imposture, tu vois, quand je suis en face à face avec quelqu'un, où souvent je me dis, je suis sûrement plus diplômée que lui, en plus, tu vois. Donc, il me fait pas peur. Mais les moments informels de groupe, les cocktails de la culture, là, ouais, j'ai envie de mourir. Vraiment. Ouais. D'ailleurs, j'y vais peu, et c'est sûrement quelque chose qui va pas m'aider, mais
C'est... Les fameux réseautages.
Ah ouais, ça c'est mort pour moi. Ça vraiment, c'est au-dessus de mes forces. J'ai essayé 2-3 fois et du coup, ça sert à rien parce que je sais pas faire et ça me fait du mal. Donc c'est pas...
Ouais.
C'est pas la peine, tu vois. Et à un autre niveau, là où pour, parfois je peux avoir un sentiment d'imposture, c'est que moi je suis fille d'immigrés, voilà, j'ai vécu longtemps dans un quartier et tout, mais je suis blanche. Même si je suis un petit peu méditerranéenne, tout ça, tu vois. D'ailleurs, on me prend souvent pour une arabe, juste parce que je suis d'un quartier, en fait. Ça, c'est marrant. Mais. Et là, les portes s'ouvrent quand même, tu vois, malgré tout. Et je peux pas m'empêcher de me poser la question, si j'étais noire, est-ce que je serais là où je suis? Ou est-ce que ça serait encore plus dur, tu vois? Et les faits montrent, et les chiffres montrent que oui, ça serait certainement plus dur. Et ça, ça m'embête un peu, tu vois. Donc après, voilà, j'essaie de tous les gens qui travaillent avec moi, qui sont racisés et tout, de les mettre en lumière autant qu'ils méritent. Là, avec Hillel, on essaye de soutenir d'autres projets chorégraphiques aussi, de jeunes chorégraphes. Voilà, qui sont pas que les miens, que du coup les opportunités que moi j'ai eues et qui m'ont peut-être été facilitées par le fait que je suis blanche, ben voilà, que d'autres puissent
en profiter, tenir ouais, la porte,
c'est ça, les portes rentrer. Qu'on a ouvertes, qu'on continue à les ouvrir pour les autres, quoi.
Je me demandais Hillel, ça ouais. Veut dire quoi?
Ça veut dire le dernier quart de lune, c'est en arabe pour le coup, c'est okay. Le dernier quart de lune, c'est parti de jeu de mots aussi à la base, je te faisais l'histoire, ça n'a pas de sens mais... Mais du coup, le mot, j'ai trouvé qu'il était poétique. J'aimais bien comment ça sonnait.
Je voulais te demander à un certain point dans l'entrevue, j'ai pas trouvé quand, alors je t'ai demandé comme ouais. Ça à la fin. Dernière question.
Il y a la petite lune sur les t-shirts. Tu les okay. As vus. C'est le logo.
Ah oui, d'accord. Mmh. OK. Tout fait du sens maintenant. Et là, tu parlais de... C'est un triptyque. Donc, il y a la troisième création qui arrive.
Ouais.
Donc ça, t'en es où? C'est quoi qui s'en vient pour toi avec ça?
Alors la Cuenta, c'est la Cuenta Medellin Marseille, c'est une créa qui parle des règlements de compte, qui parle des assassinats dans les quartiers, principalement autour du narcotrafic. Et en fait, ça fait le lien entre Medellin et Marseille, puisque moi à Medellin, j'étais avec des collectifs donc, qui œuvrent à la pacification des quartiers. Voilà, c'est des endroits où il y a beaucoup d'homicides, d'assassinats. C'est des mots qu'on n'emploie pas trop. Hein. Souvent, on dit juste règlement de compte. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, là aussi, ça minimise la gravité. Parce que règlement de compte, c'est pas grave, c'est entre eux. Tu vois, les gens ils disent souvent ça. Ouais. Sauf que, ben non, tu vois, c'est un assassinat. Et en fait, ça mérite pas d'être banalisé, puisque les gens, d'où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, méritent de vivre. Et du coup, ça, c'était vraiment la philosophie des collectifs avec qui j'étais à Medellin, de vraiment dire ça, que rien ne justifie l'homicide, en fait, narcotrafic ou pas. Rien ne justifie l'homicide. Et que derrière chaque assassinat, il y a une personne qui a une famille, qui a des proches et qui en fait était aimée par des gens. Et c'est des vies entières qui sont détruites, celle de la personne qui a assassiné, mais aussi celle de sa famille, celle de son quartier. Ça a vraiment résonné pour moi avec la situation marseillaise, puisque pareil, on se trouve dans... Alors pas à la même échelle, hein, Medellin et Marseille, on est heureusement pour nous encore pas au même niveau en termes de quantité, mais les processus c'est les mêmes. Et donc voilà, j'avais envie qu'on puisse se parler de ça, qu'on puisse se servir de l'expérience de ces collectifs de Medellin ici à Marseille, parce que ils ont historiquement un peu, ça fait longtemps à Medellin qu'il se passe ces trucs-là. Là où nous à Marseille, j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans la sidération où voilà, on compte nos morts, et on pleure un coup, on se dit ah, il y en a encore un. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous, en fait, en dehors des gens qui sont concernés directement, des familles, tu vois? Ça devrait nous concerner à tous, en fait. Et ça, je suis contente parce qu'au conseil municipal, ben, la fois où Coppola, il a parlé de mon travail, c'était aussi le jour où il y a eu une minute de silence pour les jeunes assassinés à Marseille. Et Benoît Payan, il a dit, c'est nos enfants, en fait. C'est pas juste les quartiers nord, les règlements de compte. En fait, c'est les enfants de Marseille. Et ça devient encore plus vrai de jour en jour, puisqu'on a des victimes de plus en plus jeunes, des victimes collatérales, des mamans, enfin, des trucs, c'est insupportable, en fait. Et ça devrait toucher tout le monde. Moi, ce qui me fout en l'air, au-delà même de la mort de nos jeunes, c'est l'indifférence dans laquelle ça se passe, tu vois. Mais ça me dépasse. Et vraiment, du coup, c'est l'envie de cette créa. Elle est là dans, encore une fois, rendre visible. Mettre de l'empathie, réhumaniser. Et donc de là où on en est, ben, là on a juste fait une partie de la création musicale, on a fait quelques premiers jours de création, je vais sortir un petit teaser là dans les jours qui viennent. C'est que le début, tu vois, on a une petite trame, et là on rentre vraiment en création à partir du 18 septembre, et la première elle aura lieu à Clap en janvier.
Ok, la et... Clap c'est à Marseille?
Ouais, c'est à Marseille. Ouais. Wow. Ça me fait un peu peur parce que du coup l'enchaînement, t'as vu là, il était intense. On a fait Bac Nord en juin, là, 6 mois plus tard, on va sortir la Quinta, mais je me dis au moins que ça sera fait, la trilogie, elle sera là, elle existe, après, voilà, j'espère qu'on arrivera à la tourner, mais en tout cas, l'objet, il sera là. Et ça, comme tu vois, pareil pour Bac Noir, c'est des trucs qu'on pourra plus nous enlever une fois que ça existe.
Est-ce que t'as déjà pensé à Montréal?
Ouais, j'aimerais trop. Ce serait fou. Ouais. Ah ouais. Ça serait magique. Et parce que tu vois, moi, mes histoires, là, elles parlent de Marseille, mais en fait, elles parlent de partout où il y a des quartiers populaires. Enfin, c'est des processus qui se retrouvent partout dans le monde, mm-hmm. malheureusement.
Oui. Mais je te souhaite vraiment une grande tournée.
On essaye, on se bagarre pour ça.
J'espère que tu vas venir à Montréal, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont écouter ce podcast, qui vont vouloir voir la pièce. merci beaucoup, Marina.
Ben, je t'en prie, merci à toi.
D'avoir accepté l'invitation.
Avec grand plaisir.
Vous venez d'écouter le 8e épisode de la 3e saison des Impostures avec la danseuse et chorégraphe Marina Gomez, enregistrée dans les studios de Radio Galère à la Friche Belle de Mai à Marseille. Les Impostures est un podcast indépendant réalisé, animé et produit par Sidonie Gaulin avec l'aide de Majdouline Rami à la prise de son, Alice Zérini Le Reste à l'illustration, Maëva Gauthier-Chartrand à l'identité graphique et Antoine Desrochers-Godin à la composition sonore. Et surtout, merci à celles et ceux à Marseille et à Montréal qui ont été à l'écoute durant les derniers mois. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour la suite.